Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Je vais vous citer un auteur français que j'aime beaucoup, Philippe Muray, M-U-R-A-Y, décédé malheureusement en 2006 à l'âge très jeune de 50 ans. Il aimait les formules frappantes et humoristiques sur notre goût moderne pour l'anticonformisme. Il parlait des mutins de Panurge en référence aux moutons de Panurge qui ne pouvaient rien faire qu'en groupe, comme les moutons le font d'habitude. Ces moutons sont des mutins, c'est-à-dire qu'ils se rebellent, mais de façon collective et non individuellement. Une façon d'être hyper conformiste dans l'anticonformisme. Ces notions sont un petit peu bizarres, on va les expliciter un petit peu dans quelques secondes. Curieusement, au Québec, en même temps, deux revues très sérieuses, Argument et L'Inconvénient, consacraient leur dernier numéro au même thème, c'est-à-dire le conformisme. Et j'en parlerai également avec Normand Baillargeon, le philosophe bien connu, ce jeudi-ci, mais sous un angle plus philosophique. La revue Le Verbe n'a pas voulu être en reste, et j'en parle avec Antonin L'Enfant, son rédacteur en chef, par ailleurs animateur de l'émission On n'est pas du monde à Radio VM et Radio Galilée. Fin de l'introduction. Ouf, bonjour Antoine.
Prenez votre souffle, Jean-Philippe, bonjour.
Alors quand on lit votre blog, parce que vous êtes une revue, un magazine et aussi un blog le-verbe.com, vous avez pendu un billet.
Un billet.
Et il y a aussi un texte d'Alex Lassalle qui est un peu le Léon Blois du Québec.
Ah, je sais pas si on peut dire ça. Léon Blois, c'est toute une plume. Quoique Alex est quand même bien garni aussi.
Tout à fait. Il aime la langue de Blois, c'est ça?
Il aime la langue de Blois, oui, peut-être.
Quant à vous, Antoine Malenfant, vous avez, comment dirais-je, commencé votre blog en disant ouais. La distinction et les rebellocrates de Cosset.
C'est, vous citiez Philippe Muray oui. D'entrée de jeu, c'est l'expression rebellocrate vient de lui.
Ah bon?
Oui, c'est une façon de dire finalement qu'on cherche tous à être différents, à se démarquer, à se distinguer, mais pas trop. Hein. Et là, c'est peut-être le quelques restants de sociologues qui sommeillent en moi qui vous parlent. C'est tout le rapport à la norme, le rapport à la manière dont on se présente aux autres et la manière qu'on essaie de faire partie d'un groupe tout en ayant une identité propre aussi. C'est un peu là-dessus que je lançais ma réflexion.
Il y a aussi, c'est moi qui fais un aparté pour briller un peu, Antoine. Schopenhauer avait aussi une image qui avait été reprise par Freud. L'humanité, c'est comme des porcs épics l'hiver, vous savez. Alors, ils veulent avoir chaud, vous savez. Donc, ils restent ensemble, mais ils font pic, 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 pic. Alors, ils ont tellement mal qu'ils s'éloignent les uns des autres. Mais comme c'est l'hiver, il fait trop froid et les épines ne sauvegardent pas contre la chaleur, contre le froid. Ils reviennent tout le temps en groupe, mais pic, 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 pic. Alors, l'humanité, c'est ça où un groupe, il se dit il se reforme, il se disloque, il se reforme. C'est un peu ce que vous dites en d'autres termes.
Oui, oui, hein? Et on a certainement, l'analogie peut être utile aussi dans la mesure où ça arrive qu'on se pique. D'ailleurs, le texte d'Alex Lassalle duquel je parle dans mon billet est un texte un peu piquant.
En effet, oui, il a une sacrée langue, oui.
Il a une sacrée langue. Il vient un peu questionner, je dis un peu, mais c'est un euphémisme, il vient questionner assez franchement, assez frontalement une certaine tendance dans l'Église du Québec à vivre et à vivre une approche pastorale particulière qui est celle d'un certain progressisme ou certaines idées modernistes du moins qui laissent peu de place selon lui à un attachement par exemple à l'enseignement magistériel de l'Église à la tradition héritée de siècles.
Ce qui m'étonne, c'est que vous avez quand même une ligne éditoriale dans Le Verbe. Ouais. Hein? Vous êtes loin des polémiques. Alex Lassalle est un brillant polémiste et à lire sa plume, d'abord on apprend un français extraordinaire parce qu'il y a des tas de mots, etc. Et puis c'est des jeux de mots qui sont très bien, qui sont bien amenés, etc. Mais il me semble que la revue Le Verbe est plus dans le témoignage, dans la réflexion. Ouais. Et là, vous êtes dans le boum, le coup de poing. Tant mieux. Mais je veux dire, est-ce que vous modifiez un peu votre inflexion?
Ben, c'est un peu l'idée derrière le texte, la distinction et le rebellocrate que je signe voilà, aujourd'hui. Oui. C'était de venir rappeler que notre ligne éditoriale demeure. On a une formule qu'on aime bien à la maison, hein, dans les bureaux du Verbe, qui est celle de privilégier l'annonce plutôt que la dénonce. Hein. On essaie de... vraiment, vous le disiez, Jean-Philippe, hein, mettre de l'avant des témoignages, des réflexions plus positives sur telle ou telle idée. Mais là, évidemment, ce texte-là a l'air, ou au premier abord, nous semble un texte qui est une charge, qui est une... Et c'est pas faux non plus, mais ce que je crois est l'essentiel dans ce texte-là, c'est le magnifique rapport à la fin entre les différents états de vie. C'est-à-dire qu'on peut bien faire une pastorale de petites cellules d'évangélisation, de petits groupes de laïcs qui se réunissent, mais ça doit jamais se faire en cassant du sucre sur le dos du clergé. Et je pense qu'il y a une complémentarité des états de vie dans l'Église, le clergé, les laïcs, qui est une grâce et qui est un don pour l'Église. Et c'est un peu ça l'idée qui est annoncée. Évidemment, il y a toute une introduction qui est assez abrasive à ce texte-là d'Alex Lassalle. Donc, l'objectif de mon texte, c'était de rappeler que notre ligne éditoriale demeure. Peut-être une petite dérogation ici, mais on garde l'objectif.
Vous mentionnez également brièvement le cardinal Müller qui a fait un manifeste là-dedans où il rappelle son attachement au catéchisme de l'Église catholique. Ça, on est dans le conformisme ou dans l'anticonformisme?
Ben, c'est très drôle hein, parce qu'il y a le propos et il y a la manière. On pourrait dire la même chose du texte d'Alex Lassalle. Hein. On pourrait très bien le critiquer sur la manière. D'ailleurs c'est le cas. Il y a des commentaires déjà qui circulent et c'est très bien. Je pense que... on pourrait dire donc la même chose du texte le manifeste de la foi du cardinal Müller qui vient de sortir récemment.
Qui est d'ailleurs ancien préfet de la congrégation de la doctrine de la foi.
Exactement. Tout un CV, le monsieur quand même. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui est très respecté dans l'Église. Mais qui sortait ce manifeste-là avec des propos qui facilement peuvent être interprétés comme une critique du pontificat de François. Alors là, ça, évidemment, ça laisse la place à toutes sortes d'analyses. Qui est le plus conforme, qui est le plus catholique là-dedans que le pape? Mm-hmm. c'est un peu la question. Et l'Église universelle, il ne faut pas se leurrer, elle est profondément divisée sur le pontificat de François, même si c'est mm-hmm. quelqu'un qui, bon, dans les médias, passe assez bien. En tout cas, au Québec, il a l'air d'un rassembleur, mais on peut regarder l'Église américaine spécialement qui... Je pense que c'est pas exagéré de dire qu'elle est elle est divisée et certains vont même jusqu'à dire qu'elle est au bord du schisme. Bon, je sais pas ce qu'il en sera, mais tout ça pour dire que ce genre de déclaration-là du cardinal Müller, même si dans les propos ou dans le fond, c'est tout à fait c'est assez conforme. Il rappelle des vérités de la foi qui, bon, somme toute, n'ont rien d'extraordinairement nouvelle. Dans la manière dont c'est fait, je pense que ça peut facilement alimenter ces divisions-là qui sont déjà peut-être bien en place.
Vous citez le texte d'Alex Lassalle qu'on va dépioter dans quelques secondes, Antoine Malenfant. L'organisation hiérarchique de l'Église est une grâce et non une tare. Alors là, le mot grâce est important parce qu'il y a les tenants de la hiérarchie.
Ouais.
Donc c'est les... Cato, crispé, coincé, entre guillemets, et ceux qui ne veulent pas de hiérarchie, d'égalité, du rose bonbon, et tous copains, et copines, et l'ouverture, donc aplatissement des hiérarchies. Donc, la grâce n'est ni conformiste, ni anticonformiste, elle est à un autre niveau ontologique.
Elle est nouvelle, elle est vraiment... Oui.
Elle n'est pas d'une... Une grâce ne peut pas être polémique par définition, parce que le polémos dans la cité grecque, si vous voulez, c'est vraiment la discussion entre toi et moi, entre deux citoyens égaux, en tout cas, alors que la grâce divine, mais elle vient d'ailleurs.
Absolument.
Et c'est une grâce pour l'Église catholique.
C'est une grâce. Moi, je tiendrais à spécifier, à clarifier peut-être cet attachement-là d'Alex Lassalle, en tout cas, je peux parler pour moi, certainement, cet attachement-là à une hiérarchie ou à une organisation de type hiérarchique n'est pas peut facilement être confondu à un cléricalisme.
C'est fatal.
C'est fatal, mais je pense qu'il faut faire la distinction. Un cléricalisme, c'est un attachement à une certaine conception de ce que peut être le rôle du clergé dans l'Église. Alors, il y a peut-être un jeu de perception là, ou de représentation, mais je pense que le clergé, si c'est vécu comme un pouvoir, et ça l'a été encore, malheureusement, de certains clercs qui vivent cette charge-là, ce rôle-là, comme une domination, Malheureusement, ça engendre un anticléricalisme qui est, à certains égards, bien légitime.
Et qui est en fait que le négatif du négatif que l'Église a voilà. proposé. On est tout le temps, on barbote tout le temps au même niveau.
On est tous le réactionnaire de quelqu'un.
Exactement. Bon. Donc l'anticonformiste, pour revenir à votre thème initial, Antoine Malenfant, c'est que le conformiste et l'anticonformiste, en fait, c'est la même personne.
Et je joue un peu sur ça dès le début de mon texte et même à la fin aussi, c'est-à-dire que je compare ça à quelqu'un qui se promène avec des bottes de punk et un manteau de bourgeois ou l'inverse. Je le fais moi-même. On est tous
Non, 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 pas du tout. Vous inversez la proposition. Regardez, je vais vous citer.
Allez-y, faites-moi mal.
Non, vous aimeriez trop ça. Au Verbe, on a toujours assumé que la position inverse était plus conforme à notre appel de baptiser, chausser les pompes bien propres de l'enseignement traditionnel de l'Église, tout en se couvrant les épaules d'un froc de renégat du siècle. Revenons-en donc à ce texte de la salle qu'on peut également trouver sur le blog du Verbe, le-verbe.com.
Ouais.
Revue et magazine, vous êtes le rédacteur en chef. Hein?
C'est cela.
Gratuit d'accès en plus?
Tout gratuit.
Enfin, fabuleux ça.
Ben oui.
La grâce, elle vient d'où?
Ça aussi, c'est une grâce, exactement. C'est donné, tout est donné.
Bon, on arrive à ce... donc, évidemment, Alex Lassalle parle du rêve d'une nuit du 4 août catholique aboutissant à l'alignement ecclésiologique sur la United Church originale.
Mm.
C'est vaste comme phrase, la nuit du 4 août 1789, qui abolit le tiers-État, le clergé,
les privilèges
du clergé et de l'aristocratie, et qui aplatit tout le monde étant citoyen égal devant la loi.
Il y a un danger dans cette réaction-là. On parlait d'anticléricalisme un peu plus tôt. Je pense qu'il y a un danger et qui nous guette, c'est d'idéaliser, ou c'est un peu ce qu'Alex souligne d'ailleurs dans son texte, que le laïc comme étant quelqu'un de pur, quelqu'un de nécessairement humble, qui œuvre.
Oui, parce qu'il n'est pas participé au pouvoir de l'Église.
Oui, mais je regarde autour de moi, je regarde dans les paroisses, dans les diocèses, en tout cas le peu que je connais, je vois des laïcs qui ont parfois plus de pouvoir que les clercs. Alors, il y a un autre danger qui nous guette en étant anticlérical, c'est s'accaparer ou j'essaie de trouver les bons mots, mais de prendre un pouvoir qui est de devenir finalement un nouveau clergé.
Calife à la place du calife,
mais
comme is no good.
Peut-être comme is no good un peu. Et bon, c'est difficile là, de traiter de ça avec les mots justes, la délicatesse qui est requise, parce que évidemment il y a toutes sortes de gens qui sont bien intentionnés, qui se donnent corps et âme à l'Église dans toutes sortes d'activités bénévoles,
mais le diable peut se glisser là-dedans aussi, même dans chez les plus grands saints.
Je pense que c'est ça, même dans ces bonnes intentions là faut vraiment, et je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que faut se méfier de soi-même, et c'est ce que je tente de faire moi aussi. C'est-à-dire que est-ce que je suis en train de chercher ma propre gloire ou de me construire moi-même personnellement à travers ces activités-là?
C'est un va-et-vient constant. Je veux dire, vous êtes pêcheur rédimé, vous aussi tout le temps entre les deux, hein, n'est-ce pas?
Voilà, et ça ne doit pas pour autant, cette condition-là, faire l'économie d'une certaine forme de critique ou d'autocritique, certainement, mais aussi on doit faire des constats parfois, et je pense que l'Église au Québec mérite ce regard critique-là.
Je vous laisse souffler un petit peu, Antoine Malenfant. Je vais citer un bref, assez long paragraphe d'Alex Lassalle, qui est collaborateur au Verbe. On peut trouver ça sur le-verbe.com. Voilà ce qu'il dit. « La vieille Église catholique d'avant Vatican II est bien morte. En quelques décennies, nous sommes passés de la crispation autoritaire de la hiérarchie antimoderne à la collégialité faussement ouverte des équipes pastorales progressistes. Du vieux cardinal réactionnaire et infatué, enrubanné dans sa cape et son rochet, qui est un surplis à manches étroites, au bon gros curé social-démocrate à bedaine et chandail de laine. » On continue. « Du rigorisme guindé d'un clergé souvent inculte, imbécile inquisiteur, à la mise au rancard du concept de péché par les franciscains à guitare. » Il n'aime pas la guitare, on voit ça. « De la défense paniquée du dogme par un épiscopat au bord de la syncope, à l'institutionnalisation de la dissidence et de l'hérésie dans les facultés de théologie. » Et enfin, « Des 11 vicaires surnuméraires pour seconder monsieur le curé aux 11 villages éparpillés pour finir de l'épuiser. » Si je comprends bien ce paragraphe et l'ensemble du texte d'Alex Lassalle dans le-verbe.com, c'est qu'on est passé d'un extrême, d'une constipation extrême, à un relâchement extrême, si j'ose dire.
Mon Dieu. Arrêtez avec vos images.
Je fais du Lassalle.
Oui. alors, Je pense que, c'est, évidemment, le style du pamphlet, où, bon, Alex, vous le disiez plus tôt, c'est une sorte de polémiste, hein, mm-hmm. et il s'en fait tout plus fait. Vraiment de cette espèce. Au Québec,
c'est rare.
On est plutôt dans la bonne entente.
Pierre
hein,
Falardeau. Bon, Pierre Falardeau était un brillant polémiste.
Bon, alors, je pense que son rôle dans la cité, c'est d'exagérer. Hein, et là, on le voit très bien dans l'extrait que vous venez de lire. Mm. Il exagère. Il grossit les traits et de la même manière qu'un caricaturiste va le faire aussi au niveau des arts visuels.
Et donc, il y a une vérité au fond de tout ça.
Ben, pour communiquer, une vérité au fond de tout ça qui nous serait pas ou moins accessible sans cette exagération-là parce que, bon, on passerait notre chemin, on serait comme étourdi par d'autres préoccupations. Et là, en exagérant, en marquant vraiment le trait, ça nous... Il y a une prise de conscience. Et évidemment que c'est injuste. Ce n'est pas tendre du tout. C'est même...
On n'aime pas ça au Québec, taper sur... Ben, on tape sur l'Église, c'est la mode, évidemment. Mais à l'intérieur de l'Église, on ne veut pas faire de peine au petit Jésus.
Non, ni c'est ça... ceux qui sont ses fidèles disciples. Mais je pense que ceux à qui le chapeau fait, qu'ils le mettent, si le chapeau vous fait pas, ben, mettez-le pas, c'est pas compliqué.
Ben il parle de la complémentarité des états de vie. Vous en parliez quelques minutes, Antoine Malenfant. Une complémentarité des états de vie qui est une grâce pour notre Église. Et là, il parle de l'action agile de l'infanterie légère, le délicat, vous et moi, avec la force de frappe de l'artillerie lourde, les sacrements qui sortent des mains des prêtres.
C'est très beau, cette
phrase-là. C'est bien résumé.
Ouais. Moi, je trouve que c'est... peut-être la phrase la plus importante à retenir, en tout cas une des plus importantes de ce texte-là, et je suis content que vous la souligniez, Jean-Philippe, parce que c'est, en tout cas moi, c'est mon expérience de l'Église, c'est-à-dire que l'infanterie, le laïcat, les familles, les couples, les jeunes, les vieux qui sont pas... entre guillemets, pogné dans toutes sortes de préoccupations qui sont celles des prêtres aujourd'hui, hein, évidemment, sont l'infanterie. Pourquoi? Une infanterie, c'est léger, c'est agile, c'est mobile, et ça peut aller dans des recoins, dans des zones, dans les périphéries dont parle le pape François, qui sont peut-être moins accessibles pour quelqu'un qui a une charge ministérielle, sacerdotale.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, mais sans le support, disons, surnaturel des sacrements, de la grâce qui vient par les mains des prêtres.
Et qui permet de dissoudre la polémique.
Bon, ouais, ben ça, on pourrait y revenir, mais qui certainement donne les forces vives pour pas que cette infanterie-là devienne une espèce de autoréférentielle ou autosuffisante, ben, et qu'elle porte du fruit vraiment à long terme. Et c'est ça, c'est une autre question qui est soulevée par Alex.
Exactement. Vous avez lu les méditations sur l'Église de Henri de Lubac?
Non.
Il parle justement de ce que dit Alex Lassalle. Il y a l'ecclésia au Moyen-Âge, l'ecclésia convocans, c'était le clergé, et l'ecclésia invocans, c'était le peuple des fidèles. Et donc, il y en a vraiment l'artillerie lourde et aussi on a l'infanterie légère.
Il ne faut pas les voir comme des antagonistes, surtout pas.
Exactement.
Et bon, c'est intéressant parce qu'il y a un commentaire qui a été laissé sous le texte là, par Jocelyn Girard, dont il est question dans le texte d'ailleurs. Et bon, je suis très, très heureux de voir les nuances qu'il apporte, les critiques même qu'il fait au texte d'Alex Lassalle, et je pense que c'est bienvenu. Qui vient rappeler son commentaire, tout comme le texte d'Alex Lassalle, mais d'une manière différente, qu'il y a une complémentarité. Il ne faut surtout pas voir les prêtres et les laïcs comme des antagonistes.
J'aurais aimé avoir moi, j'adore l'étymologie. Hiérarchie, qui est un mot honni aujourd'hui, inégalité, etc. C'est masculin, c'est épouvantable. Quand on voit le mot, l'origine étymologie, c'est la même chose que sacerdoce. Hein? Tachera, c'est les choses sacrées, Archein, la gestion des choses sacrées, qui revient donc au sacerdoce, c'est celui qui conduit les choses sacrées également. Et qui, forcément, ce n'est pas une hiérarchie de pouvoir, c'est une hiérarchie de face à Dieu.
Absolument, je pense donc de service, c'est une pyramide inversée, hein, mais peut-être pas à la manière qu'on soit, là, c'est-à-dire que c'est pas une question de pouvoir du tout.
C'est le maître qui est venu pour servir.
Absolument, et évidemment, la dernière scène nous le rappelle très bien, cette idée-là. Mm-hmm. Je pense que le texte d'Alex Lassalle est très utile pour venir un peu... évidemment, ça met le point sur la table.
Il met les points sur les i et il définit les choses beaucoup plus clairement.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est normal que ça dérange. Après, on peut discuter de la manière dont c'est fait, etc. Mais je pense qu'au moins, ça lance la discussion. Est-ce que vraiment la hiérarchie a encore sa place dans l'Église universelle, dans l'Église au Québec? Ce texte-là est assez clair sur la question. Moi, je pense que aussi, ça nous rappelle que le véritable sacerdoce, comme vous le disiez, c'est un service.
Conformisme, anticonformisme, ça me fait penser au mot original. Tout le monde veut être original. La publicité nous personnalise et nous rend original. Mais le mot original ne se rapporte pas. Je ne suis pas original par rapport à mon voisin, je suis original par rapport à mon origine.
Et c'est intéressant comme parallèle, parce que allons à l'origine justement du mot conformisme. C'est prendre part à un corps, c'est faire forme avec. Alors, il n'est pas question ici de on parlait des moutons ou des mutins.
Des
mutins de Panurge. Celui qui est conforme, c'est celui qui accepte ou qui accueille sa nature ou qui accepte de faire partie d'un corps qui est plus grand que le sien. Et je pense que ça ne devrait pas être étiqueté comme étant quelque chose de rétrograde ou de conservateur ou de je ne sais trop.
On en reparlera certainement. Vous êtes chroniqueur de cette émission. C'est moi qui insiste. Vous déciderez vous-même.
Bien sûr, avec plaisir.
Antoine Lenfant, vous êtes rédacteur en chef du magazine, de la revue et du blog Le Verbe, le-verbe.com, d'accès gratuit. C'est des jeunes chrétiens catholiques, surtout, mais pas chrétiens en général. Vous êtes à Québec, mais on peut vous lire partout dans la francophonie. Merci beaucoup. Merci. À dans 4 semaines.
Bien sûr, avec plaisir.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, pénurie d'enseignants francophones au Canada et rebondissement autour de SNC-Lavalin. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.